ça.
Il n'a pas voulu employer le procédé de Terrasson, il a cherché à réinventer, il n'a pas eu le temps de trouver. Il s'emmerde un maximum. Vous pouvez voir les dessins, c'est pathétique. C'est le début de la topologie et du temps. Hein, vous voyez, c'est cette leçon du 21 novembre 78. C'est pathétique, vous voyez, c'est gribouillis et compagnie. Il met la bande de Möbius, là, vous voyez, il met la bande de Möbius sur le tore. Il essaye de la mettre, mais la triple Möbius, hein, c'est celle-là. Il essaye de la mettre, il ne trouve pas ça. Pourquoi ? Parce qu'il confond plusieurs choses. Il confond plusieurs choses que vous pourrez lire d'autant mieux que vous coupez ça selon le trèfle. Il y a une confusion entre les lignes de pli et les lignes de bord. Oui. Pour obtenir cette figure-là, dans celle-ci, il faudrait faire ça. Regardez, il faut ajouter les lignes de pli. Ici, vous n'avez pas les lignes de pli. Vous redessinez le trèfle en plus grand. Vous voyez le trèfle comme ça, hein? Eh bien, si vous ajoutez les lignes de pli ici, là et là, vous avez une bande. Ça, c'est des lignes différentes de celle-ci. Ça, c'est des lignes de bord, ça, c'est des lignes de pli. Et si vous voulez obtenir. Alors, vous voyez, vous passez vers le bord, hop, alors, la question est là. Est-ce que cette partie du trait doit être, qui est un bord, hein, doit justement occulter cette ligne de pli qui est un faux bord. Les plis qui sont des faux bords, c'est quoi ? Vous voyez, ce que j'appelle ligne de pli, c'est quelque chose qui est comme ça. Quand vous avez un ruban, vous voyez, la ligne de pli, je vais lui mettre une couleur rouge. Cette ligne de pli, rose, vous voyez, c'est censé, pour moi, écrire le ruban. Vous voyez des hachures ici. Le ruban est plié et ici il passe au-dessus. Donc ici je peux mettre des petits points. Ça passe au-dessus. Et le bord passe en dessous. Là c'est des pointillés. Bon. Ce que j'appelle ligne de pli, c'est ce que j'ai ajouté là. Si j'en ajoute des deux côtés, je vais obtenir le tore. Tenez, ici, la ligne de pli, je vais la mettre là. Je vais la mettre ici. Et je vais la mettre là. Vous voyez ? Donc, ça veut dire quoi, ce que je viens de faire ici ? C'est que j'aurais pu, mes lignes de pli, les étendre jusqu'à la moitié ici de la boucle. Jusqu'à la moitié de la boucle. Vous voyez ? Si j'étends cette ligne de pli encore plus qu'à la moitié de la boucle, là, je suis en train de faire une esquisse du tore qui porte le trèfle, le nœud trèfle. Hein. Voilà. Là, je m'approche du tore. Alors, quelle est la différence entre ceci et cela ? Ben, ici, les pointillés ne sont pas marqués. Vous voyez, les pointillés, il faudrait les marquer ici. Quand il y a tangence avec le pli, il faut que ça passe en dessous. Hein, ça passe en dessous jusque-là, et puis là, hop, ça sort. Ça, vous voyez, ça passe en dessous, et hop, ça sort. Et puis, vous voyez que ici, c'est réorienté d'une manière différente. Les sommets ne sont pas au même endroit. Voilà le genre d'exercice qu'il faut faire. C'est que c'est des commentaires qu'il faut se faire. Il faut se le raconter. Ou il faut le raconter à quelqu'un. Ou il faut imaginer qu'on parle à quelqu'un. Là, c'est plus facile parce que vous êtes là, alors. On profite. Vous voyez, ici, ça passe au-dessus. Et là, ça passe en dessous. Donc, ici, c'est quelque chose qui passe en dessous. Là, ça passe au-dessus, et là, à partir de là, ça passe en dessous. Voilà. Vous voyez, je m'approche de cette figure. Quelle est la différence entre cette figure et celle-là ? C'est que les points extrémités des passages en dessous, je les ai un peu décalés, je les ai bougés, je les ai fait bouger. Je les ai déplacés dans le même ordre, sans changer l'ordre, c'est ça la topologie. Hein. J'ai gardé l'ordre. L'ordre est invariant. Hein. J'appelle ce point A, ce point B, ce point C, bon, les A, B et C, vous voyez bien. bien que ici j'ai A, j'ai le point A, j'ai le point B, il est passé en bas le point B, et puis le point C il est monté jusque là. J'ai fait tourner les points légèrement. Bon, vous pouvez vous amuser à faire. Enfin, moi je trouve que ce serait pas mal de s'amuser à faire ça. Enfin, moi ça fait 30 ans que je m'amuse. Je suis un peu con en fait. Je trouve que c'est passionnant parce que avec ça on peut lire, on peut apprendre à lire des choses qu'on n'a jamais lues et qu'on n'a jamais vues et jamais commentées. Même les mathématiciens ne le font pas. Eux, ils veulent tout de suite traduire tout ça avec des équations. Pourquoi ne pas utiliser ça comme des équations? C'est ça la question. C'est la question que nous nous sommes posée avec Pierre Souris. Hein? C'est si on dessine les figures avec suffisamment de soin, mais pas trop. Quand même, en respectant l'ordre des éléments, eh bien, on a des écritures aussi mathématiques que des textes très longs. Ensuite, on peut écrire des textes, si vous voulez. Mais voyez, c'est pour ça que ce que j'essaye de vous enseigner, c'est que j'ai fait des livres qui sont des interfaces entre les articles et les livres de mathématiques et les mathématiques que nous vous proposons de faire avec Souris dans la psychanalyse et avec Lacan. Et c'est d'autant plus pertinent qu'on se dirige vers les nœuds. Les graphes encore, la logique, là il y a des structures algébriques, tout à l'heure on l'a vu avec l'algèbre de Boole par exemple. Mais vous voyez que plus on va vers les surfaces et les nœuds, plus on rentre dans une écriture qui est une écriture pour la psychanalyse. Hein, par exemple, ça, Lacan nous dit ça, voyez-vous, ça c'est la structure, le tort, c'est la structure de la névrose. On ne peut lire ça que si on. Une fois qu'on fait des exercices sur les torts, avec des nœuds toriques, ensuite on peut lire Lacan, séminaire d'identification, le retournement du tort, tout ce que Lacan raconte sur les tours de la demande et les tours du désir. Et ensuite vous pouvez vous faire une lecture pour lire Lacan et lire Freud à partir de ses dessins. Et vous voyez que vous allez apercevoir que Lacan. Il écrit la structure névrotique en disant que la névrose, c'est la structure du tort. Qu'est-ce que c'est une névrose? C'est se faire du tort. C'est un jeu de mots, vous me direz. Mais voilà, c'est pas parce que j'étudie les torts géométriques de la topologie que je suis obligé d'être con et borné et pas m'apercevoir que dire que la névrose, la structure de la névrose, c'est la structure du tort, ben la structure de la névrose, c'est la structure de la belle âme qui se fabrique, aliénée, qui se fabrique de la culpabilité. Ça s'appelle le surmoi. Pseudo-instance, dit Lacan. C'est pas une instance, c'est pas du tout comme les autres, le moi, le ça, hein, la réalité. Le surmoi, c'est une pseudo-instance. Pourquoi? Parce que c'est le résultat d'une lâcheté. C'est le résultat du fait de confondre la demande des pleurnicheries avec, qui est modale, avec le désir qui lui est approfondi. Le désir c'est dire, la demande c'est pleurnicher, c'est modal. Mais le problème il est de voir que le dire est quelque chose qui est hyper modal aussi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est nécessairement présent pour le sujet qui vit. Et que le sujet qui se plaint oublie, en ne comptant que les tours en pointillés, voyez-vous, il y a trois tours, et le problème ici est de voir, comme je vous l'ai déjà dit dans le processus de Terrasson, il faut aussi compter le nombre de tours qu'il y a sur le dessus. Et ici, vous avez deux tours, vous voyez. Si vous partez d'ici, hein, vous faites un premier tour autour de ce point-là, un premier tour, hop, un deuxième tour et vous êtes revenu au point de départ. Et ça, c'est les tours qu'on oublie quand on ne fait que de faire des tours qui sont des tours de la qu'on appelle de la demande. Hein. Et si on fait beaucoup de tours de la demande, hein, vous voyez, la figure, elle est comme ça. La psychanalyse, c'est pas fait pour que le sujet s'en rende compte tout de suite, mais il est invité à s'en rendre compte tout seul. C'est pas la peine de lui inviter. Vous voyez, si vous faites des tours comme ça,
plier. Voilà, hop. Voilà. À force de faire des tours de pleurnichard, vous oubliez que vous avez fait le tour du désir. Alors, qu'est-ce que c'est arrêter de se faire du tort? C'est reconnaître qu'il existe un tour qui est autour de cet axe-là du corps. Alors que tous ces tours, ils ont été faits autour du cercle qui est à l'intérieur du corps. Et Lacan, en plus, dans ses écrits, entre le séminaire d'identification de 62 et l'étourdi qu'il va écrire en 72, c'est-à-dire 10 ans plus tard, il retourne le tort et il parle des tours de l'amour comme étant ceux qui sont autour de l'axe et des tours du désir qui sont ceux autour du cercle à l'intérieur. Parce que ça retourne le corps comme une chaussette, qui est l'enjeu du séminaire d'identification et des identifications. Lacan les traite en termes de retournement du corps. Bon, par exemple, dans les yeux de l'or, Nassio, qui a utilisé ça parce qu'il m'avait invité chez lui pour qu'on parle de ça, enfin, il m'avait dessiné, puis il avait gardé le papier. Le seul problème, c'est qu'il a oublié de me demander ce qui se passait après. Donc, il s'en est tenu un tour de la demande et au tour du désir, et puis c'est tout. Et moi, à l'époque, j'ai pas pensé, je suis vraiment salaud, j'ai pas pensé lui dire oui, mais il y a une suite, il faudrait aller jusqu'à l'étourdi. Bon, brave Nassio. Hein? Ils sont tous comme ça, ils voudraient m'utiliser comme expert, vous savez, ils voudraient mes sorts, ensuite ils me jettent.
Là, j'ai combien de tours dans le dessin du trip?
Là, celui-là?
Non, dans l'autre, là.
Là, il y a 3 tours méridiens, il y a 2 tours longitudinaux.
2 longitudinaux. Je les ai comptés.
C'est des exercices à faire. Il y en a plein dans l'étoffe. Hein. Ça, c'est une méthode que j'ai montrée dans l'étoffe. Alors, passons à la généralisation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Lacan s'emmerde? Voilà la question. Qu'est-ce qui rate? Qu'est-ce qui vient faire ou obstacle à sa réflexion sur le... Parce que, en plus, Lacan, il est hyper intéressé à ce moment-là, puisqu'il vient dans le symptôme, il vient de nous dire dans le symptôme, hein, qu'il fait de la psychose paranoïaque une nouvelle théorie avec le neutral. Il dit, ça, c'est l'écriture de la psychose paranoïaque. Et que le neutral... Le traitement de la psychose, ça va être comment reconstituer le nœud borroméen qui est détruit par la mise en continuité. Alors, je vous montre la mise en continuité, je vous dessine le borroméen, je vous redessine le même borroméen, ici, comme ça, hop. Hein? Je vais mettre ici le rond vert, je passe en dessous le bleu et le rouge. Bon. Comment obtenir avec un borroméen un trèfle? Alors là, vous voyez, là, tout à l'heure, j'étais en train de parler de la névrose. Maintenant, je suis en train de vous parler de la structure que Lacan propose dans les enseignes de la psychose. En tant que psychose paranoïaque égale la personnalité. La personnalité, hein, vous savez, c'est sa thèse en médecine avec le cas Aimé. Hein, Aimé, elle a été avec un canif attaqué d'une actrice fameuse dans un théâtre. Un petit canif, elle lui a pas fait très mal, mais tant mieux. Hein. Et c'est quand même un crime paranoïaque. Elle est allée avec un petit. Elle était femme de chambre, hein, c'est comme les bonnes de Jean Genet, vous voyez. Ça peut être le massacre horrible, ça peut être aussi un petit canif. C'est pas une question de quantité, c'est une question de. Je sais pas si c'est une qualité, mais enfin. C'est une question de très distinctif. Elle avait un petit canif, elle est allée attaquer la vedette. Et c'est pour ça que les vedettes, ils se plaignent qu'ils ont les journalistes qui leur courent après, mais ils ne savent pas ce qu'ils risquent. Ils risquent beaucoup de plus, parce que on le sait bien que depuis Hitler, les paranoïaques s'attaquent plutôt aux juifs. On favorise même ça. En France, on a favorisé ça, parce que maintenant, il paraît que ça va changer, j'espère. Parce que les paroles sont des actes et ça a des conséquences énormes de favoriser. Alors, la personnalité, c'est la psychose paranoïaque.
Et pourquoi, qu'est-ce que c'est que le paranoïa? Qu'est-ce que c'est que la qu'est-ce que c'est que la psychose? C'est le rejet de la lecture parce que le sujet entre le trauma, la DI, fonction imaginaire du phallus symbolique, et l'incorporation d'un corps de langage dans le corps au sens naïf, le corps propre, le corps qu'on a, où le langage se tient au corps par les incorporels, parce que les étrangers ne peuvent pas comprendre, parce que ce que quelqu'un peut vous dire avec les yeux complètement écartés, oh, mais c'est évident, il faut être dans le coup pour comprendre, bon, c'est ça les incorporels. Les incorporels pour les stoïciens, c'est ce que les étrangers ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça que le snobisme, à mon avis, c'est tout à fait charmant. Bon, à moins d'être fou, il y a des snobs fous, ça, ils sont chiants. Et le snobisme, c'est quelque chose d'absolument nécessaire dans le langage, parce qu'on ne peut rien apprendre si on n'est pas snob. Hein? C'est pour ça que la Candide de Kojève méritait le prix Nobel. C'est pas une question de particularisme et de se croire une personnalité, c'est qu'il y a des choses qui s'appellent les incorporels. Les paranoïaques, ils ne tolèrent pas les incorporels. Ils veulent que tout soit écrit sur le billet, sur le ticket de caisse. Hein, pas d'appréciation de la clientèle, pas d'incorporel. Et donc, le lien entre la DI, la fonction imaginaire du phallus symbolique, et les incorporels, qui déjà, cette notion de DI, c'est déjà quelque chose de visible. C'est l'introduction à la lecture, à la visibilité. Plus les incorporels qui sont nécessaires à capter pour eux. Et vous voyez que ça va aller jusqu'au nom du Père, hein, cette histoire. Parce que qu'est-ce que c'est que le nom du Père? Les signifiants du nom du Père, c'est des signifiants banals pour les autres, mais exceptionnels pour le sujet. On dit, moi, mes noms du Père, c'est le camembert, enfin, c'est plutôt le fromage. Ce que je dis aux Argentins, c'est que leur nom du Père national, c'est le Dulce de Leche. Ou le tango. Ils peuvent dire, vous ne comprenez pas le tango, nous, le tango. La seule erreur qu'ils ont commise, c'est qu'ils ont cru que Lacan, quand il est arrivé avec sa maîtresse de l'époque, qui s'appelait Catherine Millot, elle était belle, et lui, il était assez dandy, alors ils ont cru que c'était un couple de tango. Ils ont dit, si c'est ça la psychanalyse, nous, on est des champions. Donc ils en sont encore là. Ils croient qu'ils ont pigé quelque chose à la psychanalyse lacanienne parce que Lacan, c'est tango. Sympa, mais c'est pas ça. Moi, je passe mon temps à leur dire non. Et ça les intéresse. Il y en a qui s'intéressent beaucoup, ceux qui viennent écouter des conneries, mais il y en a d'autres qui s'en foutent complètement. Bon. Là-dessus, vous voyez qu'il y a des choses comme ça qui sont nécessaires et que le paranoïaque ne supporte pas. C'est pour ça que Freud, il a repéré que le paranoïaque ne supportait pas les homosexuels. Parce que là aussi, c'est pas écrit sur le front, hein, homo, hétéro. Et en plus, le sexe, c'est une histoire de con. Non, c'est une histoire de bide. C'est une histoire d'idiote, c'est que il y aurait un organe qui, paraît-il, ferait la différence entre les hommes et les femmes d'une manière visible et certaine. Bon, très bien. Donc si le sexe, la différence de sexe est réduite à l'anatomie, c'est marqué, alors pourquoi y aurait-il une différence que ne connaissent pas les animaux, qui viendrait s'ajouter à ça, qui serait hétéro-homo? Vous voyez que moi, je vous dis que homme, hétéro-homo, femme, hétéro-homo, hein, même les quatre, là, c'est pas anatomique. Hein, il n'y a aucune raison. Regardez le travesti. Le travesti, il peut avoir une magnifique queue. Il va vous la montrer à la fin de la scène. Le travesti, la scène. mais qu'est-ce qu'il fait? Il est un génie de la logique. Lui, il s'en fout, justement. Il se moque du trait positif de l'organe. Il fait femme. C'est ça, le travesti. Ils s'en rendent pas compte, les gamins qui font ça, mais moi, je les trouve absolument géniaux. Je trouve que c'est une des formes de l'homosexualité masculine la plus logique et la plus développée d'un point de vue esthétique et logique. C'est faire femme en étant un mec et ensuite même de vous coller. Alors, les flics et les psys vous disent que c'est l'exhibitionnisme ensuite de vous montrer la queue. Moi, j'ai vu un film, je vous ai peut-être déjà dit ça, j'ai vu un film fait par un haïtien en Californie. S'appelait La nuit de la lune du pirate. Il y avait même à l'époque, il y avait la publicité dans Actuel. C'est un film d'une beauté extraordinaire. Ça se passe dans un cabaret. Vous avez une dame qui chante, qui ressemble à cette dame qui chante, qui est celle qui fait dire dans Jimmy Shelter qui fait dire wouf, les Rolling Stones, ils sont sciés. Comment elle s'appelle cette femme qui est une femme noire qui chante qu'est-ce qu'on connaît comme grande chanteuse?
Moi je connais Janis Joplin.
Non, c'est pas celle-là, c'est pas elle. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle avait un mari qui fait dans le showbiz et dans le jazz. N'empêche que c'est un film. Comment? Quel nom?
C'est pas Billy.
Non, c'est plus récent. C'est
tout récent.
Non, c'est récent. Disons, tu vois, elle a fait la première partie du concert des Rolling Stones en Californie, tu vois, dans le film Jimmy Shelter. Il y a un assassinat.
Tina Turner.
Vous avez une actrice qui est en train de chanter comme Tina Turner sur une scène dans un petit cabaret de merde en Californie, avec un rideau rouge. Et les autres scènes, c'est elle est dans sa loge devant un miroir avec des ampoules et elle est interviewée par le mec, l'haïtien, qui parle avec elle. Et elle parle de sa vie, elle raconte sa vie. Et puis alors ça alterne les scènes où elle est en train de se préparer, elle parle, elle discute avec ce type, et puis les scènes où elle chante sur la scène. C'est magnifique. Et tout ça, le film dure peut-être 1h30, 1h30, je ne sais pas. C'est un très joli film. Et vous allez voir ce que c'est que la décence. Parce que elle chante comme ça, et alors la dernière scène, elle est sur la scène, et pendant qu'elle est en train de chanter, elle enlève ses vêtements. Mais c'est pas un striptease. Elle enlève ses vêtements et il se révèle que c'est un mec, mais alors un beau mec, hein, costaud, comme ça, qui enlève la robe, qui garde la perruque, qui enlève la robe, les vêtements, et qui se retrouve en pantalon de smoking, voyez-vous, avec des chaussures vernis noires, et qui continue à chanter avec la même voix. C'est magnifique. C'est très simple. Hein. Et voilà, vous voyez. Aucun exhibitionnisme, si vous voulez, mais on a cru, je vous dis la solution, donc ça va vous gâcher le plaisir, mais on a pu croire, de toute façon vous croirez que c'est Tina Turner. Elle chante vachement bien. Comment ce cinéaste, ce réalisateur haïtien a trouvé? C'est le seul film qu'il ait fait dans sa vie. Michel disait ça, on rigolait de ça parce qu'on disait que c'est le seul film qu'il ait fait, le pauvre homme, dans sa vie, c'est quand il est allé faire des études en Californie, on n'a jamais vu de film de lui. Et c'est dommage, parce qu'il était très doué. Et moi, je pense qu'il faudrait faire des films sur la perversion, sur la névrose, sur la psychose, au lieu de faire des romans policiers. À chaque fois qu'on vous parle de psychanalyse au cinéma, il faudrait faire des films sur l'opéra, sur le... Je sais pas, moi, il y en a n'importe. Il faut prendre... Et faire que des films décents. Décents, mais qui parlent de l'obscénité, du déchet, qui en parlent bien. Moi, je ne suis pas du tout pour cette décence coincée, vous voyez, de nos psys, là, qui sont des curés, quoi, la plupart du temps. La question, c'est que on n'est pas obligé d'en rajouter dans l'obscénité et l'abjection, mais qu'elle soit présente, et elle soit mise en scène, et elle soit présente. L'enjeu, c'est quand même de ne pas faire les spectateurs prisonniers. Hein, c'est utile. Moi, quand les mecs commencent à vouloir faire des trucs trop... pas réaliste, appelons ça comme ça, je sais bien que c'est des métonymies, mais j'ai vu un film qui s'appelle Flandre, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ça, un mec sur la... qui déteste les militaires, ça, mais c'est, je trouve que c'est de l'abjection, le film, vous voyez, et moi je m'en vais, quand je vois des films comme ça, je m'en vais. Donc, je pense qu'on pourrait faire des présentations, on pourrait faire des... on pourrait écrire, l'écriture, évidemment, c'est beaucoup mieux. Mais même au cinéma, vous voyez, on peut faire des choses extrêmement réussies. Et donc, Lacan, Freud, il a bien vu que c'était le thème homosexuel qui posait un problème au paranoïaque. Et c'est insuffisant parce que c'est la question de la lecture. Le paranoïaque, il ne sait pas lire et ça l'emmerde. Et il veut détruire ceux qui lisent, qui ont l'air de se moquer de lui. Ça fait quoi? Ça fait homophobie, crime paranoïaque, ça fait antisémitisme, crime paranoïaque. Et d'autres. Et ça va jusque... Ça peut donc être un type qui tue une femme dans un train. Il
faut voir ça, les sœurs Papin, vous voyez, c'est parce que la victime joue le rôle de ce que j'ai montré tout à l'heure au tableau comme étant la partie retrouvée de l'objet dans le désir de l'être. C'est le lien rouge de la répétition entre le sujet et son objet retrouvé. Et ce lien peut être destructeur. Destructeur de l'objet, du sein de la mère, ou destructeur du petit frère. Là, quand on parle d'une haine fraternelle. Donc, qu'est-ce que c'est que le nœud trèfle ? Le nœud trèfle, c'est une mise en continuité de l'imaginaire rouge ici, du symbolique vert et du réel bleu. Et si je les mets en continuité, qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai plus qu'un seul rond. La couleur s'estompe parce que tout devient noir, tout devient la même couleur. Il y a des distinctions qui disparaissent. Et donc, la question anti-paranoïaque de la psychanalyse et du traitement que Lacan propose de la paranoïa, c'est apprendre à lire. Ça veut dire comment retrouver le borroméen avec ses distinctions dans le neutre-être. Hein? Si je coupe la partie, dans la partie centrale, je détruis cette partie centrale du nœud borroméen, j'obtiens ici un trèfle. Est-ce que vous voyez que le trèfle, il suffit à ce moment-là de supprimer les petites boucles, hein? Vous avez comme ça, je le dessine en noir, le trèfle ici en dessous. Vous avez une petite boucle ici, hein, une petite là. Ici, vous avez une petite boucle. Ici, il y a encore une boucle. Voilà. Bon. Et voilà. Pof. Ici, ça passe en dessous, et là, ça passe au-dessus. Là, ça passe en dessous, là, ça passe au-dessus. Là, ça passe au-dessus, là, ça passe au-dessus. Bon. Retirez les petites boucles, vous allez voir que vous avez obtenu le trèfle. Et même la surface qui reste, parce que ça, c'est des petites boucles. C'est des boucles dessus qui se déplient. La surface, c'est celle qui est ici peinte en bleu. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la psychose paranoïaque, c'est la mise en continuité de l'imaginaire qui se continue dans le symbolique, qui se continue dans le réel, qui se continue dans l'imaginaire. Et le fait de supprimer ces distinctions, bah, ça rend la lecture encore plus difficile. Donc le paranoïaque, c'est quelqu'un qui se tire dans le pied et qui préfère détruire toute la visibilité. C'est ce qui se passe en ce moment, je vous dis, avec les machines qui sont beaucoup plus dangereuses que les centrales atomiques et que les bombes atomiques. Vous voyez, mais moi je ne vais pas faire un parti écologico-littéral ou littéraire. Hein, mais je pense que la question de la langue et des langues est une question aussi cruciale, si ce n'est plus, pour nous. Mais bon, on a mis la nature d'abord. Pourquoi ? Parce que toutes les religions, depuis le néolithique, après les mythes, néolithique décrit et interprété et lu par Flemish Croz, vous voyez bien que les religions qui ont inventé des écritures effectives, par limite des écritures mnémotechniques, des caricatures d'écriture, mais qui étaient écrites avec des noms propres, pas avec des lettres, les noms propres et les lettres ont la même structure, je vous ai dit ça la dernière fois, c'est une structure, c'est du matériau de récupération qui sert à écrire, et qui crée justement une équivoque entre dans la mesure où on ne sait pas si c'est le sens perdu d'un ancien discours tombé en désuétude ou si c'est l'usage qu'on fait maintenant de cette lettre ou de ce nom propre auquel il faut donner tout son poids. Mais M. Smith n'est pas un forgeron. Bon. Si vous rencontrez un Smith qui est forgeron, vous vous dites, oh, vieux, ça doit être terrible. Et bon, moi, mon nom d'apiculteur, je ne cultive pas les abeilles. Mais donc, tout ça, c'est pour vous dire que on croit que c'est de la nature, on donne tant d'importance à la nature, parce que les religions, elles ont tout de suite interprété les mythes en considérant les anciens, leurs anciens, les hommes, les femmes du néolithique, comme des crétins, comme des cons. Ils ont décidé que c'était des conceptions du monde, les mythes. Et c'est vrai, c'est fait avec des plantes, des noms de plantes et des noms d'animaux. Moyen mnémotechnique pour accumuler l'expérience des techniques de civilisation qui ont vécu jusqu'à nous, enfin jusqu'à la révolution industrielle. Vous voyez que les religions ont mis le paquet sur les interprétations naturalistes, les théologiens, ils adorent ça, ils pensent d'ailleurs que Dieu est un animal, mais qui sait lire, ce qui est une erreur grave. Ça, il n'y a que Lacan que j'ai lu qui nous prévient,
ne croyez pas que Dieu lit. Dieu, il ne sait ni lire ni écrire, il parle peut-être, comme les animaux parlent.
Il est athée surtout.
Non, mais il n'est peut-être pas athée, il croit peut-être en Dieu. Hein. Mais il ne sait pas lire. C'est une erreur de croire ça. D'accord, il dit que même Goethe l'a cru. Kant le croit, et comme notre épistémologie, la philosophie à domination kantienne, pré-hegélienne, vous voyez, on est mal barré. Quoi. On est quand même dominé par une science qui prolonge la religion en faisant aussi tout un baratin sur la nature. Vous n'avez qu'à voir les Lumières, la philosophie des Lumières, nos libertins des Lumières, là, comme le Marquis, Sade ou Diderot, ils en mettent un paquet sur la nature. Vous lisez Sade, vous verrez, c'est. Pour se débarrasser des religions, ils en rajoutent sur la nature. La bonne vieille nature ou la bonne mère nature, je ne sais pas quoi. Bon. Donc, cet obscurantisme qui fait qu'aujourd'hui, vous avez le Cyrulnik qui essaye d'enliser le désir, de détruire le désir avec la résilience, qui est une notion de physique. Enfin bon, on croit rêver, mais nous sommes dans une civilisation de sous-développés culturels, vous voyez. Moindre, je ne sais pas moi, les Anglais et les Africains qui savent ce que c'est que parler, ils savent très bien que parler c'est important, mais que c'est pas la même chose de parler dans le langage que de parler comme un chien qui aboie ou un crabe qui se cache derrière une boîte de conserve.